Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! L'épisode vous est proposé en partenariat avec Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable qui reverse 100% des bénéfices à l'Action pour le climat, dont 80% pour financer des projets de reforestation situés dans des zones critiques de biodiversité. Pourquoi vous parlez d'Ecosia ? Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce podcast, on parle d'initiatives qui contribuent à un monde meilleur. Donc si vous cherchez une idée de geste green toute simple à mettre en place et qui a un impact concret, pensez à Ecosia. Toutes les 45 recherches, c'est un arbre qui est planté. Allez simplement sur Ecosia, ecosia.org, et mettez-le en moteur de recherche favori ou installez-le sur votre smartphone. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, place à l'alimentation pour ce nouvel épisode de Communautaire. J'ai la chance d'accueillir Sébastien Loctin, fondateur de Biofuture. Biofuture, ce sont des marques innovantes d'huile, sauce et assaisonnement qui allient senti, plaisir, bio et traçabilité pour une alimentation saine. Bonjour Sébastien, vous allez bien ?
Bonjour Pauline, ça va très bien, merci.
Avec Sébastien, nous allons parler d'alimentation bio et vraie, de transparence, de liberté, celle de bien manger, et d'accès à la vérité en tant que droit citoyen pour faire les bons choix, pour sa santé, mais aussi pour préserver la planète. Allez, place aux présentations, Sébastien. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et nous parler de Biofuture ?
Alors bonjour, moi, Sébastien Loctin, donc je suis le fondateur de Biofuture. J'ai lancé à travers Biofuture deux marques, une marque qui s'appelle Quintessence, qui est distribuée en circuit biologique spécialisé, et puis une marque qui s'appelle Node, qui est distribuée en grande distribution depuis peu. Je suis également, parce que voilà, je ne vais pas me résumer à mon parcours professionnel, je suis surtout d'abord un gros gourmand. Enfin, moi, je suis un passionné d'alimentation, j'ai des arrière-grands-parents agriculteurs. J'ai des grands-parents qui étaient cuisiniers, traiteurs, chefs pâtissiers du paquebot Normandie. J'ai grandi à Lyon, qui est une ville où on mange bien. Donc voilà, donc j'ai un rapport à l'alimentation qui est globalement presque une image d'Épinal, voilà, avec des produits bruts, cuisinés maison, issus d'une agriculture de chez nous. Et je suis également papa. Je dis ça parce que quand on devient papa, et je crois que Pauline, vous êtes une jeune maman, je crois que quand on devient de papa, on remet un petit peu sur la table certains de nos soi-disant acquis et ça nous invite à redécouvrir un petit peu comment cuisiner, qu'est-ce qui est le meilleur pour nos enfants et à travers ça, se dire qu'est-ce qui est le meilleur pour nous et pour leur planète. Donc voilà, donc je suis entrepreneur, papa et gourmand.
Et c'est le fait d'être papa justement qui a créé ce déclic de créer Biofuture ?
Alors je crois que c'est un grand classique. Hein. C'est vrai que quand on devient parent, il y a une prise de conscience qui s'accélère. Nécessairement. Après, je crois que j'avais tout ça au fond de moi, à la fois la volonté d'être utile et puis un rapport à l'alimentation particulier. Et mes enfants, j'ai envie de dire, ont contribué à faire remonter tout ça à la surface et à mettre un petit peu de conscience et surtout de courage pour créer Biofuture, pour tout plaquer et puis me lancer dans cette aventure.
Alors donc, les marques Biofuture, Quintessence et Node, sont des marques d'huile, sauce et assaisonnement. Pourquoi ces produits-là en premier ? Est-ce que c'était pour véhiculer un message fort, parce que ce sont des produits quotidiens et que du coup on peut bien les consommer, alors que ces produits-là soit peuvent être associés à la junk food, parce que utilisés dans des fast-food, parce que voilà, la mayonnaise, ketchup peuvent être utilisés dans des types de restauration où effectivement sont associés à des produits qui sont finalement pas qualifiés de très sains, et ou parce que ils sont souvent notés Nutri-Score D, alors que ce sont des produits qui sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Je parle en l'occurrence de l'huile. Donc voilà, pourquoi ces produits-là ? Pourquoi avoir commencé par ceci ?
Alors il fallait bien commencer quelque part. Vous avez raison. Alors pourquoi ? Parce que il y a plusieurs raisons. Quand j'ai décidé de tout plaquer il y a 12 ans pour proposer une alimentation sans chimie, issue d'une agriculture plutôt française avec des produits clean. C'était il y a 12 ans, il faut le remettre dans le contexte, hein, c'était pas évident. Les tendances étaient moins marquées qu'aujourd'hui, donc je passais un peu pour un fou. Et en termes d'impact, moi, ma volonté, c'était d'avoir de l'impact sur le quotidien des gens. Donc, pour avoir de l'impact, la première chose, c'est de, quand on est petit, qu'on n'a pas de moyens, d'essayer de s'inscrire dans le quotidien des gens. Et on a tous chez soi de l'huile. On utilise, c'est des produits qui sont encore des très bons taux de pénétration, les huiles, les vinaigrettes, les sauces, le ketchup, les parents en ont quasiment tout le temps pour leurs enfants, mayonnaise, sauce barbecue, etc. Donc je me suis dit, quitte à revisiter certaines catégories, autant commencer par ce qui est vraiment le plus fréquemment présent dans le placard des gens. Ensuite, les huiles, parce que bah, moi, j'ai un parcours où j'ai passé 9 ans chez Le Sueur. Donc, c'est un segment, un marché que je connais bien. Et quand on se lance, être entrepreneur, c'est une aventure. Quand on se lance, bah, c'est bien de commencer par des marchés sur lesquels on a une vraie expertise, qu'on connaît bien. Donc, j'ai également commencé par ce marché-là pour ces raisons. Et puis, la dernière, bah, vous l'avez dit, hein, je trouve que ce sont des marchés sur lesquels il y a des problématiques nutritionnelles qui sont extrêmement intéressantes, soit sur les huiles parce qu'il y a beaucoup d'a priori, on a une tendance à être dans une société lipophobe à tort, hein, parce qu'il faut de l'huile pour notre bon fonctionnement, c'est-à-dire que toutes nos cellules, nos 500 000 milliards de cellules sont constituées d'une petite membrane qui est de la matière grasse. Donc le gras qu'on va consommer va conditionner quasiment notre immunité, la réaction de nos cellules, leur rigidité, leur souplesse, leur flexibilité. C'est un aliment crucial et qui est malheureusement banalisé, méconnu, voire rejeté des assiettes des gens. Donc on s'est dit c'est intéressant de commencer par là aussi pour refaire de l'éducation positive sur ce segment. Et puis après, vous l'avez dit, hein, les sauces burger, barbecue, ketchup, elles sont super mauvaise presse, à juste titre. Et on s'est dit c'est rigolo d'aller démontrer qu'on peut en France proposer des alternatives hyper clean, hyper saines sur des sauces hyper junk food.
Tous ces produits-là, ils sont produits en France ?
Alors oui, nous, toutes nos gammes de produits sont produites en France par des PME françaises. Alors on est très vigilant sur le fait que ce soit des PME qui n'appartiennent pas à un groupe, une multinationale ou à des fonds, donc qui ont une gouvernance par le dirigeant, qui sont déjà embarqués dans des démarches RSE, qui sont déjà embarqués dans de la production bio. Donc voilà, on essaie vraiment d'être très cohérent avec nos partenaires. Et puis, au-delà de la production, parce que c'est bien de produire en France, c'est très bien pour l'emploi des PME, mais on veille aussi à avoir un maximum de matières premières cultivées en France pour soutenir l'emploi des paysans. Et on a aujourd'hui 83%, aux dernières nouvelles, 83% de nos matières premières qui sont issues d'une agriculture française.
Et en termes de label, on parlait de bio tout à l'heure, ce n'est pas forcément les seuls.
Alors oui, ce ne sont pas les seuls. On est labellisé bio en termes de produits. On a également nos produits sont majoritairement vegan. On est très bien noté sur les applications nutritionnelles. On a tous nos produits qui sont effectivement pour beaucoup qui sont en origine France. Donc après les labels, c'est toujours un peu compliqué. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis toujours un peu emmerdé sur les labels parce que on est dans un monde qui marche un petit peu à l'envers, Pauline. On est obligé aujourd'hui de labelliser ce qui est finalement assez normal. Et quand on met un label bio sur un produit, on dit aux gens quand même, regardez, ce produit ne contient pas de chimie de synthèse, pas d'additifs de synthèse et on n'a pas utilisé de pesticides de synthèse en agriculture. Comme si la normalité était d'utiliser de la chimie de synthèse et de donner ça à nos enfants. Donc moi je trouve que les labels, je ne suis pas très à l'aise parce que je pense qu'on ne les met pas au bon endroit, on ne les met pas sur les bons produits. Je pense que les gens préféraient savoir où est-ce qu'il y a de la chimie de synthèse que là où il n'y en a pas, ça me paraîtrait plus juste. Mais en plus de ça, aujourd'hui des labels, des vrais labels réglementés, encadrés, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le label rouge, il y a le label bio. Tout le reste, c'est des labels qui sont quasiment privés et il y en a énormément. Sans résidus de pesticides, zéro résidus de pesticides, agri-éthique, HVE, etc., etc. Ce qui fait que le conso, il est perdu. Il est complètement perdu aujourd'hui au niveau des labels. Les produits deviennent des sapins de Noël. Alors, nous, on a pas mal de labels parce qu'on est sur des produits de qualité, mais finalement, ça m'emmerde toujours un peu, pour être honnête.
Mais en fait, c'est la question que j'allais poser, c'est que donc les marques Biofutura sont distribuées dans deux circuits de distribution qui sont un petit peu différents. Donc autant quand on va dans un magasin bio ou spécialisé, on s'attend à consommer des choses qui soient saines, bien que certains produits peuvent être encore ultra transformés, mais globalement on a quand même des produits qui font un effort sur la qualité des ingrédients. Autant quand on est en grande surface, comment on rassure le consommateur, comment on l'informe sur le fait que ce qu'il va manger est bon, effectivement parmi tous ces flopés de labels et ceux qui ne sont pas forcément utilisés à bon escient?
Ah, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a deux circuits très différents. En magasin bio, comme vous le dites, on a déjà un premier point qui est que l'ensemble des fournisseurs sont des PME, très souvent à très grande majorité française. Hein, donc on a déjà un soutien à l'emploi français, alors qu'en grande distribution, on a 80% de l'offre qui est faite par des multinationales, souvent étrangères. On a de l'autre côté, en magasin bio, 100% des produits globalement qui sont bio, à part quelques-uns, le sel, les sardines, voilà. Mais bon, on a des offres qui sont bio à 100%, ce qui n'est pas le cas en grande distribution. Et on a une vigilance, effectivement, des fabricants, parce que quand on est une PME, on n'a pas des grands moyens en communication, donc on investit plutôt dans le produit. Après, tout n'est pas parfait. Hein. En circuit bio, on a des produits qui sont trop sucrés, parfois qui utilisent des mauvaises qualités de graisse, qui sont... pas optimisés nutritionnellement, qui ne viennent pas de France. Enfin, il y a plein de trucs encore à améliorer. Mais la qualité globale de l'offre est meilleure. En grande distribution, on est dans un espèce de Far West alimentaire où on retrouve du hyper dégueulasse et du globalement très clean. Et c'est compliqué pour le consommateur de s'y retrouver parce que sur le hyper dégueulasse, les groupes ont une tendance à raconter des belles histoires pour faire croire que c'est hyper bien. Et donc sans dire toute la vérité. Donc c'est un sujet dont on parlera, je pense, dans la deuxième peut-être partie du podcast. Mais je pense qu'on a une vraie problématique de transparence alimentaire, de transparence harmonisée notamment, ce qui fait que le consommateur en grande distribution est incapable, en face d'un prix, de mettre une qualité. Voilà, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'on achète et de savoir ce qu'on donne à manger à nos enfants, ce qui est, selon moi, pas normal, parce que dans un état de droit, se nourrir en conscience doit être un droit.
Clairement, mais alors, qu'est-ce que ça voudrait dire consommer sain ?
Oula, alors consommer sain, je pense que c'est... Chacun va y mettre un peu... Chacun va mettre un peu probablement sa définition. Hein. C'est comme le bien manger, qu'est-ce que c'est pour certains, c'est différent que pour d'autres. Mais pour moi, manger sain, il y a plusieurs critères. On pourrait se rapprocher de la définition de la FAO hein, qui dit que quand on mange sain, c'est manger durable. Donc manger durable, c'est durable pour soi et c'est durable pour les écosystèmes. C'est-à-dire que quand vous mangez, la première fonction de la nourriture, au-delà du plaisir qui est important, c'est déjà de se nutrir. Au sens nutritif, donc c'est de l'énergie, c'est des micronutriments, vitamines, minéraux, acides gras, donc c'est déjà de mettre le corps en disposition, comme on mettrait la terre en disposition de bien produire, on met notre corps en disposition de bien se porter, de vivre longtemps, de vivre mieux, d'être en forme, de résister aux virus, etc. etc. Donc, la première fonction de l'alimentation, je pense que c'est déjà une vigilance nutritionnelle, à savoir pas de chimie de synthèse évidemment, limiter les produits ultra transformés. Donc ça passe à la fois par des indicateurs d'information, mais aussi par tout simplement parfois lire l'étiquette. Quand on lit la composition d'un produit, moi je dis souvent à mes amis, si dans la liste d'ingrédients, il y a des trucs que vous n'avez pas dans votre placard, c'est suspect.
Danger.
Ouais. Exactement, ouais, danger. Donc c'est du bon sens, hein. On a un peu oublié tout ça, et c'est vrai que c'est devenu compliqué. Mais c'est déjà, regardons la liste, s'il y a un truc que je n'ai pas dans mon placard, je prends un risque. Alors, soit je le fais en conscience, ok, c'est ok de temps en temps, mais globalement, voilà, on est déjà en limite nutritionnelle. Donc, pour moi, manger sain, c'est déjà bien se nourrir. Et ensuite, c'est bien se nourrir sans affecter, effectivement, nos écosystèmes, parce que tout est lié. C'est-à-dire que quand vous faites le choix d'une agriculture qui est polluante, à cause des pesticides notamment, ou du transport, nécessairement, ça nous revient. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les gens qui me disent « moi, je ne mange pas bio, mais je mange local », j'ai envie de leur dire, c'est pire, parce que du coup, vous encouragez une agriculture intensive en bas de chez vous. Donc, c'est encore plus absurde. Donc, manger sain, c'est aussi se dire, si jamais je n'encourage pas nos agriculteurs à convertir vers des pratiques plus durables, nécessairement, je paierai tout ça sur ma santé à travers les nappes phréatiques, la pollution des terres, la pollution de l'air, et nécessairement que, on le voit bien, ça impacte notre santé.
Mais le critère du bio, il peut avoir recouvert différentes exigences en fonction d'un label ou d'un autre. On peut avoir aussi du bio qui peut être pas forcément made in France.
Alors, c'est une bonne question et j'en profite pour faire un peu de clarification sur ce pauvre label bio, ou souvent sur lequel les consommateurs...
Maltraité, ce pauvre label.
Il est maltraité. C'est extrêmement injuste. Moi, quand je vois les consommateurs qui tirent sur le label bio, mais qui ne se posent pas la question du produit à côté qui n'a pas de label, très sincèrement, je trouve que c'est vraiment, je me dis, on marche sur la tête. Il n'y a aujourd'hui absolument aucun débat possible, ni scientifiquement, ni nutritionnellement. Il n'y a aucun débat. Le bio, même un bio à 90%, sera globalement toujours supérieur à un produit issu d'une agriculture conventionnelle intensive. Il n'y a pas de débat pour l'homme et pour la planète. Après, le rôle du label bio, c'est effectivement la préservation de la biodiversité, c'est de remettre des pratiques agricoles un peu plus anciennes, c'est bannir surtout la chimie de synthèse, à la fois sur les terres, donc les pesticides, tous les phytosanitaires de synthèse, mais également dans les produits ensuite, dans leur production, c'est-à-dire les additifs chimiques de synthèse. Donc c'est ça le rôle du bio, ce n'est pas de venir de France, d'Espagne, d'Italie ou de Chine, ça c'est un autre cahier des charges. Donc, il faut que les consommateurs comprennent que quand on fait un choix alimentaire, le bio va régir le type d'agriculture. Voilà. Mais il ne régit pas l'origine. Donc, ça ne sert à rien de dire du bio qui vient d'Espagne ou du Maroc, ce n'est pas du bio. Si, c'est du bio qui respecte le cahier des charges bio, qui est l'absence de chimie de synthèse. Après, au consommateur de dire, est-ce que je veux du bio qui vient de France ou est-ce que je veux du bio qui vient d'ailleurs ? Mais c'est absurde de comparer l'origine et le bio. Ce sont deux cahiers des charges complètement différents.
Très bien. Et concernant les productions raisonnées, qui n'ont pas forcément donc, un label bio, mais qui peuvent aussi se passer de pesticides dans le cadre de leur production, comment on peut s'y retrouver aussi? Comment on peut faire la différence?
Alors moi, je trouve ça très chouette qu'il y ait plein d'initiatives qui visent à réduire effectivement l'utilisation de la phyto, parce que la phyto, elle flingue à la fois celui qui l'utilise, hein, mais aussi sa famille. Hein. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Hein, moi, mais comme mes enfants, enfin, quand on est parti vivre à Aix-en-Provence, mon ex-femme m'a dit « j'ai trouvé une maison au milieu des vignes ». Mon premier réflexe a été de lui dire « est-ce que ce sont des vignes bio ?» Parce que sinon, la nature devient danger, ce qui est fou. Et donc, il faut bien se dire que le traitement de la vigne n'impacte pas que le vin. Impacte la famille du viticulteur, le viticulteur, les voisins, c'est inacceptable, l'étape phréatique. Donc je suis, évidemment, j'encourage toute la mise en œuvre de bonnes pratiques. Après, il faut être clair, ces bonnes pratiques, il faut être encadré, sinon on parle de quoi? C'est-à-dire que celui qui décrète, qui produit en agriculture raisonnée, c'est quoi le cahier des charges derrière? Quel est le contrôle? De quoi on parle spécifiquement? Parce que si c'est j'utilise de la phyto quand ça m'arrange, j'ai presque envie de dire c'est un peu facile. Donc le problème de tout un tas d'autres labels, c'est qu'il y a un manque de cadre et qu'ils ne sont pas soumis effectivement aux mêmes encadrements réglementaires que peut l'être le bio, le label rouge, ou certains labels. Donc aujourd'hui, on voit fleurir en magasin une pluie de mentions agriculture raisonnée, agriculture durable, nouvelle agriculture, agri-éthique, haute valeur environnementale, sans résidus de pesticides, etc. etc., etc.
Ou propre, pour citer la photo que vous avez publiée.
Ouais, exactement, ouais, production 100% propre. Enfin, franchement, moi, ça m'a fait de la peine, parce que ma fille, qui est quand même sensibilisée, qui a 17 ans, qui croit me faire plaisir en achetant ça, elle tape complètement à côté, parce que ce produit est hyper traité. Les salades, 15 jours après, elles étaient encore nickel. Donc, de quoi on parle? Et je pense que là, il y a une vraie cacophonie qui fait que le consommateur aujourd'hui en rayon, quand il achète un produit avec écrit « zéro résidu de pesticides, haute valeur environnementale, nouvelle agriculture » et qu'on met en plus la tête d'un bonhomme sur le packaging, le conso, il a l'impression qu'il achète un truc qui est dans les règles de l'art en termes d'agriculture. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, et c'est très en dessous du label bio. Donc, je pense qu'à un moment, il faut que les indicateurs soient harmonisés pour que le conso comprenne clairement de quoi il s'agit.
Donc, en l'occurrence, tous les produits Quintessence et Notes sont labellisés bio, oui. Mais pas que, ils respectent aussi des critères environnementaux ou de packaging.
Alors, on met plein d'autres trucs derrière nous, effectivement. On est sur du bio, mais alors, dans le cahier des charges bio, il y a certains additifs naturels qui sont autorisés. Des émulsifiants, par exemple gomme de xanthane, farine de goire, carragénane, etc. Bon, nous, on les exclut de nos produits. C'est-à-dire qu'on va un petit peu plus loin que le label bio sur la partie process parce qu'on exclut les additifs naturels de nos process. Mais effectivement, derrière, on est vigilant à être sur une approche alimentaire qui fait du bien à tout le monde. Donc, c'est pas simple, mais on parlait de l'agriculture, on va filiariser et on va privilégier des filières françaises. Donc, on essaye d'être sur du bio français. Ensuite, on a un travail sur l'aspect nutritionnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir du bio qui est mal conçu, qui est plein de sucre, plein de mauvais gras, plein d'ingrédients ultra transformés, c'est possible. Bon, bah, du coup, dans nos cahiers des charges produits, on a un pan nutritionnel qu'on travaille avec des nutritionnistes pour s'assurer qu'on est toujours au mieux de ce qu'on peut faire pour bien nutrir les gens. Je prends un exemple sur le ketchup. Notre ketchup, on a décidé de remplacer le sucre par des légumes naturellement sucrés, la carotte, la betterave. Pourquoi par des légumes? Parce qu'en plutôt que de supprimer complètement le sucre, en le remplaçant par des légumes, ben on apporte aussi certaines vertus du légume, donc potassium, vitamines, etc. Donc on essaye de prendre le truc un peu à l'envers pour dire quand on va nourrir un enfant, on ne va pas faire juste du sang, on va essayer de faire du plus nutritionnellement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur un engagement, nous, qui est le bio sans additifs, avec matière première française et une approche nutritionnelle qui est vraiment la plus pointue possible. Et après, vous ne les avez peut-être pas encore goûtés, Pauline, mais ils sont vraiment super bons.
Ils sont canons, ouais, en effet.
Ouais, j'ai quelques chouchous là-dedans. Ouais.
Et est-ce que ça a des contraintes, tout ça, en fait, finalement, d'aller au-delà des critères, des exigences bio? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller chercher des nouveaux fournisseurs? Est-ce que ça veut dire que d'un point de vue recette, c'est aussi des années de R&D? Voilà, qu'est-ce que ça implique en contrainte au quotidien pour aller au-delà et d'être beaucoup plus exigeant?
Alors, ça implique ce que vivent dans un monde qui est malheureusement, qui marche un peu sur la tête, ça implique ce que vivent tous les gens qui veulent changer un peu le modèle, et ça commence par l'agriculteur. Quand un agriculteur veut passer au bio, pendant 3 ans, c'est extrêmement dur. Il est en conversion, il ne peut pas exploiter le label bio, il y a très peu de subventions, l'État accompagne très mal la conversion. On parle de transition alimentaire, mais quels sont les moyens réellement mis par l'État ? C'est peanuts. Donc, c'est très dur pour un agriculteur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être courageux et avoir des convictions. Nous, derrière, quand on fait des produits avec notre cahier des charges, c'est super dur aussi, et c'était encore plus dur il y a 10 ans, parce que ben, évidemment, à la fois l'agriculture n'est pas toujours autosuffisante pour fournir les besoins ou pour avoir les bonnes filières en termes de produits, donc on a déjà des problématiques parfois de sourcing, mais derrière, quand on va voir des partenaires et qu'on leur dit, bon, on va faire une mayonnaise par exemple sans additifs, ben, les industriels de base vous disent, on ne sait pas faire. Il faut qu'on mette de la xanthane, il faut qu'on mette des carragénanes, il faut qu'on mette quelque chose pour émulsifier, pour conserver, etc. Et donc, ça nécessite avec eux de retravailler toute la R&D pour redécouvrir dans les aliments les principes un peu, j'ai envie de dire, physico-chimiques qui permettent la conservation, qui permettent l'émulsification, etc., etc. Et c'est passionnant parce que du coup, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Il faut faire beaucoup de recettes. Le ketchup, c'est 48 recettes. La mayonnaise, c'est 22 recettes. Sauce barbecue, c'est 18 recettes. En moyenne, c'est entre 9 mois et 18 mois de développement. Mais au final, on est hyper content quand on arrive à démontrer que c'est possible. Et ça fait avancer tout le monde, notre sous-traitant, nos collaborateurs. Et voilà. Donc, c'est difficile, je vous le confirme, mais c'est possible.
Et en termes de prix, comment on arrive à fixer le prix juste, celui qui va être aussi bien perçu par le consommateur? Parce que dans un rayon, l'idée, c'est aussi d'avoir un prix qui soit abordable et donc pas être rédhibitoire par rapport à celui qui veut bien consommer. C'est vrai que c'est dépositionné en termes de prix, bah, c'est vrai que ça incite moins à faire ce choix-là, même si c'est pour sa santé. Parfois, le porte-monnaie peut avoir clairement une incidence. En revanche, c'est peut-être plus facile, c'est peut-être moins coûteux de passer par des circuits de production qui sont plus traditionnels, qui utilisent des produits de moins bonne qualité, mais du coup, qui vont être plus abordables. Comment on arrive à cumuler les deux?
Alors, on n'y arrive pas toujours. Hein. C'est compliqué. Bah, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas toujours parce que nécessairement, quand vous faites le choix d'une agriculture sans chimie, vous la payez un peu plus cher. Quand vous faites le choix en plus d'une agriculture française, vous la payez un peu plus cher. Mais vous savez pourquoi? C'est-à-dire que derrière, il y a un paysan français. Quand vous faites le choix de mettre plutôt que des additifs, ben, des aliments, vous le payez un peu plus cher. Donc, évidemment, comme nous, on fait tous ces choix, en termes de qualité, ça a un prix. Mais le prix, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant parce que le prix en soi, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il raconte? Aujourd'hui, quand je vois les parts de marché d'Apple sur l'iPhone, je me dis ça choque personne de mettre 1000 balles ou 1200 balles dans un téléphone. Bon, par contre, mettre quelques centimes de plus dans son assiette, ça ennuie tout le monde. Donc, il faut quand même qu'on se pose la question de quelle perception on a de l'alimentation. Elle est très banalisée, elle est très, très appauvrie parce que l'information, le consommateur ne sait pas ce qu'il mange. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de prix, on ferait mieux de se poser la question de pourquoi c'est pas cher, plutôt que de se demander pourquoi c'est plus cher. Parce qu'un prix bas cache toujours quelque chose. Et le consommateur a plutôt une tendance, lui, à se dire « Ah, ça c'est plus cher », comme si le prix bas était la référence normale. Ce qui est faux. La référence normale pas chère, c'est une référence qui est délétère pour l'homme et pour la planète. Donc on paye une fois à la caisse un prix pas très cher, mais derrière on paye 3 fois, on paye pour sa santé, on paye pour l'environnement et on paye pour l'emploi. Parce qu'on sacrifie tout ça, on cumule des dettes. Donc le prix, il est vachement intéressant, parce que le prix, il raconte une histoire. Et derrière, après, c'est effectivement, quand on arrive à acheter en conscience, on fait quelques efforts. Moi, je sais que quand je me suis retrouvé vraiment au bord du dépôt de bilan, le seul budget que je n'ai pas sacrifié, c'est l'alimentation. On a moins voyagé, on s'est moins déplacé, moins de loisirs, voilà, etc. On a réduit d'autres postes de dépenses, parce que quand on a une conscience de l'impact de l'alimentation, croyez-moi, c'est le dernier truc qu'on sacrifie. Et on fait l'effort. Donc après... Voilà, tout le monde ne peut pas, donc il faut évidemment qu'on trouve des solutions pour accompagner la transition alimentaire pour qu'elle profite à terme à tout le monde. Mais il faut être bien conscient que la problématique du prix, elle reflète une qualité. Un produit pas cher, on ne peut pas considérer qu'on s'est nourri et qu'on a préservé nos écosystèmes et l'avenir de nos enfants.
Cette guerre des prix, elle est quand même plus marquante en grande distribution, alors que dans un magasin spécialisé, on s'attend à payer un peu plus cher pour bien manger. On est déjà dans cette recherche du bien manger.
Ben, en fait, oui, effectivement, c'est vrai que les consommateurs qui font l'effort d'aller chez Biocop, chez Naturalia, chez Lovive, Natureo, etc., en magasin bio, ils sont déjà dans une démarche, je pense, de recherche d'une meilleure alimentation et ils trouvent souvent leur compte dans ces enseignes-là. Donc, nécessairement, cette alimentation a un prix qui est un peu plus élevé. Alors qu'en grande distribution, on peut manger pour 40 centimes. Donc nécessairement, on a déjà des consommateurs un peu plus éveillés. Et d'ailleurs, c'est pas toujours une question de pouvoir d'achat. Ça, c'est un truc, je l'entends souvent, oui, il faut avoir des moyens. Vous savez que j'ai jamais vu, moi, sur les parkings de Biocop, quand j'ai commencé, j'ai jamais vu de Maserati, hein, j'ai jamais vu de Porsche, j'ai jamais vu de Mercedes. Parce que la clientèle de ces enseignes, c'est très souvent des professeurs des écoles, des agriculteurs. Voilà, des gens qui ont un rapport à la terre. Donc, c'est très souvent des gens qui sont en conscience. C'est plutôt une problématique d'éducation de ce qu'on mange qui nous amène à faire des meilleurs choix plutôt que des problématiques de pouvoir d'achat. Moi, j'ai plein d'amis qui sont très aisés. Quand j'ouvre leur placard, les bras m'en tombent. Donc, je crois qu'il y a vraiment une problématique d'éducation d'abord. Donc, après, effectivement, en grande distribution, les prix, à la fois, les prix sont plus bas parce qu'il y a effectivement une puissance de volume qui fait qu'il y a une optimisation des coûts en grande distribution, et puis parce qu'il y a une offre en termes de qualité qui est pour une large partie très inférieure.
Alors, une problématique d'éducation, clairement, mais pas seulement, il y a aussi une problématique de transparence, et je pense qu'il est temps qu'on parle de cet engagement d'en vérité de ce collectif qui du coup, a pour but de donner accès à une transparence totale pour que les consommateurs puissent acheter en conscience. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus longuement ?
Ouais, alors ça, c'est parti de... En fait, moi, quand j'ai eu 40 ans, j'ai dû faire ma crise de la quarantaine, et donc j'ai tout plaqué pour monter Biofuture, juste avant mes 40 ans. Et à l'approche de la cinquantaine, je pense que j'ai fait ma deuxième crise en me disant, bon sens, pas possible, ça fait 10 ans que j'essaye de faire ma part, que plein d'entreprises, plein d'initiatives essayent de faire leur part, et ça bouge super lentement. Et quand je vois les gens qui se gargarisent en disant « Ouais, le bio est en croissance à deux chiffres », ce qui n'est plus le cas d'ailleurs, on se gargarise, mais on parle de quoi ? Le bio, c'est 7% des achats alimentaires français. 93% aujourd'hui sont issus d'une agriculture conventionnelle, quand même, globalement. Donc, c'est epsilon à ce rythme-là. On n'aura rien changé dans 30 ans. Donc on ne peut pas se gargariser de ça. On ne peut pas se dire qu'on est arrivé quelque part. On est pour l'instant arrivé pas très loin. Donc, moi, j'avais une frustration qui était de dire, quand je vois tous ces gens qui se battent, toutes ces initiatives super, etc., chacune dans leur coin, et que ça avance aussi lentement, je me dis, à la fois on se sent seul, chacun dans notre coin, mais en plus ça va vraiment pas vite et il faut que ça aille plus vite. Et en revenant d'un déjeuner un peu arrosé avec un ami, je lui faisais part de cette frustration. Et on est arrivé sur un point de convergence qui était de dire le meilleur moyen d'accélérer la transition alimentaire, c'est la transparence. Et le problème aujourd'hui, c'est que les Français n'étant pas maîtres de ce qu'ils mangent, ils ne peuvent pas décider finalement de cette transition alimentaire. Ils sont prisonniers d'une opacité, d'une profusion d'informations qui fait qu'ils ne peuvent pas faire les bons choix, donc ils ne peuvent pas enclencher. Mais on sait que quand, en revanche, ils ont la bonne information, et bien curieusement, alors pas tous, mais curieusement, il y a déjà une certaine partie qui enclenche le changement. Je vais citer Yuka, par exemple. Yuka, qui n'existait pas il y a 6 ans, et bien Yuka, dès qu'il a commencé à éclairer le choix des consommateurs sur un élément, qui est plutôt la nutrition, un élément, et bien curieusement, ça a fait bouger les lignes de tout le monde. Tous les industriels, comme par hasard, en 2 ans, ont cliné leurs recettes pour devenir Yuka compatible. C'est incroyable, moi je passe ma vie à entendre les industriels qui disent « c'est pas possible, on ne peut pas, c'est compliqué ». Par contre, toc, dès que le consommateur il a une information et que ça commence à bouger un petit peu, à se ressortir sur les ventes, ah ben là, comme par hasard, les industriels trouvent les solutions et en 2 ans, c'est réglé.
Donc, comme quoi le consommateur a un vrai poids pour faire évoluer les choses.
Le consommateur a le pouvoir. On l'empêche de réaliser à quel point il a ce pouvoir. Parce qu'on le noie.
C'est pratique aussi pour certaines marques, finalement, que le consommateur ne se pose pas trop la question.
Mieux avoir des moutons que des loups. Mais c'est effectivement très pratique. C'est-à-dire qu'on leur raconte des belles histoires, on les divertit un maximum. On est dans une société de divertissement. Vous savez, d'ailleurs, Pascal disait que le divertissement, c'est s'éloigner du réel. On nous divertit pour ne pas avoir à se poser la question du réel, du sens, de qu'est-ce qu'on mange. Donc, à partir du moment où Yuka donne une information éclairée au consommateur, il le remet dans le réel, il lui remet du sens. Et qu'est-ce qui se passe ? Le consommateur agit. Et qu'est-ce qui se passe ? La transition se passe. La vraie souveraineté alimentaire, contrairement à ce que pensent les politiques, ce n'est pas la souveraineté alimentaire par l'industriel. Parce qu'on connaît comment ça se finit, on le sait, ça fait 60 ans qu'on le voit. La vraie souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté alimentaire par le peuple. C'est ça la démocratie. Donc, notre raisonnement, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut donner au peuple, aux Français, le pouvoir de bien choisir. Eh bien, il faut pour ça de la transparence, alors sur un certain nombre de critères qui nous semblent importants, mais il faut pour ça de la transparence, mais surtout, il faut une transparence qui soit harmonisée. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur d'un produit à l'autre ait les mêmes clés de lecture. Il ne peut pas avoir sur un pack bio, sur un autre pack nature et progrès, sur un autre pack Déméter, sur un autre pack haute valeur environnementale, sur un autre pack zéro résidu de pesticides, etc. Sinon, il ne comprend rien. Et c'est normal. Il n'est pas expert, ce n'est pas son boulot, il n'est pas nutritionniste, il n'est pas ingénieur agro. Donc, il faut lui donner des clés de lecture simples et harmonisées. Voilà. Et donc, c'est devenu un peu notre combat. On s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre ? Et ben, l'idée qu'on a eue, on s'est dit, tiens, c'est rigolo, plutôt que de le faire chacun dans son coin et parler de transparence, si on se réunissait entre marques. Parce que le truc qui est sympa, c'est que depuis la nuit des temps, les gens qui font, qui gueulent pour la transparence, qui la réclament, c'est jamais les marques, c'est les parties prenantes. C'est Yuka, c'est le Nutri-Score, c'est les ONG, Foodwatch, etc. Ce sont les parties prenantes, voire les consommateurs. Mais là, je trouve que c'est formidable de se dire que ce sont nous les marques, c'est-à-dire les premiers au cœur du système, responsables de là où on est, qui sommes la solution et qui la revendiquons et qui demandons à ce qu'on harmonise tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé un collectif de marques qui s'appelle En Vérité, où on invite toutes les marques, donc on a une petite trentaine aujourd'hui. Il a démarré très récemment, il y a un mois à peine, et il y a super engouement. Et en fait, le seul truc, c'est qu'on demande aux marques, est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que vous avez envie demain de dire la vérité aux consommateurs ? Est-ce que vous avez envie d'interpeller le législateur pour lui demander de nous imposer des règles de transparence communes ? Et c'est formidable pour les marques, parce qu'elles se positionnent, elles envoient un message aux consommateurs qui est de dire, nous, on a envie d'aller dans une direction qui est extrêmement vertueuse, on a envie de vous dire la vérité, et on a envie que les règles du jeu pour ça soient communes. Et ça pose aussi une question de la relation de confiance, c'est-à-dire qu'une marque qui dit, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de dire que le consommateur en déduira ce qu'il a envie d'en déduire, mais je pense qu'on ne peut pas se soustraire à la vérité.
Oui, j'ai enregistré un épisode il n'y a pas très longtemps avec un invité qui disait, qui fabrique des vêtements responsables et qui disait, quand vous allez au restaurant et qu'on ne veut pas vous montrer la cuisine, c'est un peu suspect, donc c'est un peu le même principe.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu suspect et aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour les marques de faire un exercice de transparence parce que, je vais vous donner un cas concret, nous, quand on marque sur nos produits qu'on a 90% de matières premières françaises, les gens nous demandent d'où viennent les 10% restants.
Oui, ils ne se satisfont pas d'un 90% qui est juste largement supérieur à ce qu'on peut retrouver en rayon.
Celui qui est à 0% à côté, personne ne lui demande, parce qu'il ne le dit pas. Mais c'est comme sur les cosmétiques, quand vous voyez 99% d'ingrédients naturels, votre cerveau va s'interroger sur le pourcent qui n'est pas naturel. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est que je connais plein de marques, plein d'industriels, plein de PME qui ont envie de changer, qui ont envie de faire mieux, qui ont envie de mettre en place des pratiques. Sauf que le système est tellement injuste, il y a une telle distorsion concurrentielle que quand vous mettez en œuvre quelque chose et que vous le dites, vous êtes en face de gens qui ne vont pas raconter les mêmes histoires, qui vont générer de la confusion ou qui ne vont rien dire et c'est vous qui vous exposez à prendre des coups, des questions ou du scepticisme des consommateurs. C'est hyper injuste.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les marques qui sont engagées en vérité, ce sont déjà des marques qui font cet effort-là d'aller vers plus de transparence, mais qui ne savent pas trop comment y parvenir.
Ce sont des marques... Alors, il n'y a pas de marque parfaite, nous non plus. Hein, pas de marque parfaite, on a tous encore à s'améliorer. Donc après, c'est des marques qui, effectivement, sont à différents stades de leur transition, à différentes étapes, mais en revanche, qui ont toutes conscience qu'on a un enjeu écologique qui nous impose de bouger et qui ont toutes conscience que nourrir les gens, c'est une responsabilité. Et que donc, à ce titre-là, les Français doivent savoir ce qu'ils mangent. Donc, les marques qui nous rejoignent, c'est plutôt des marques qui sont dans cet état d'esprit de dire, on n'est pas parfaite, mais on a conscience qu'on n'a plus le choix et que si on attend, on prendra le mur dans la tronche parce que ce sera trop tard. Donc, il faut le faire. Et oui, c'est normal que les gens savent ce qu'ils mangent. Donc, à partir de ces deux choses-là, si on est d'accord là-dessus, on rejoint le collectif et on va ensemble pousser un coup de gueule auprès du législateur pour qu'il sonne la fin de la récré et qui mettent des règles du jeu communes à tout le monde.
L'objectif idéal, ce serait quoi ?
L'objectif, moi je suis un idéaliste, vous savez, mais je pense qu'il faut être un peu utopiste ou idéaliste, sinon, quand je vois le nombre d'objections ou d'arguments qu'on m'envoie pour ne pas faire, c'est assez fou, quoi. Donc, moi, le monde idéal, c'est demain un législateur, des députés, des parlementaires qui prennent leurs responsabilités, qui tapent du poing sur la table, qui légifèrent, pour que la transparence soit obligatoire, pour que les Français sachent qu'ils mangent, et qu'à partir de là, on en finisse avec tous ces labels contradictoires sur les packagings et qu'on définisse des référentiels qui soient harmonisés, qui soient communs à tous les produits. Alors moi, je pense que dans un monde idéal, il y a au moins 4 critères qui sont importants, ce que les Français veulent savoir. Vous, Pauline, j'imagine, quand vous achetez un produit, vous avez envie de, de savoir comment il a été fait en termes d'agriculture, quel type d'agriculture, quel impact écologique du coup par l'agriculture. Vous avez certainement envie de savoir d'où ça vient, où est-ce que, d'où ça vient et où c'est produit. Vous avez certainement envie de savoir s'il y a des additifs ou pas. Et enfin, quatrième critère, vous avez certainement envie de savoir si nutritionnellement le produit est abouti ou pas. Voilà, s'il va être bon pour vos enfants ou pas. Donc là, moi, ce que, enfin, mon rêve, c'est que demain, on ait sur tous les produits alimentaires un référentiel qui remplace un peu tous ces labels confusants et qui soit le même pour tout le monde, sur, avec une évaluation du type d'agriculture, la présence d'additifs, l'origine et la qualité nutritionnelle. Rien d'autre, point trait. Et le consommateur, au moins, il a une clé de lecture qui est simple et qui est commune à tous les produits.
Et concernant le type d'emballage, parce que ça peut faire partie aussi du choix. Alors, quand on achète quelque chose de l'alimentation, l'objectif premier, c'est quand même de se nourrir. Donc, la composition à l'intérieur de la boîte, du flacon ou autre, est quand même ce qui prime. Mais quand même, la notion d'emballage, elle peut avoir aussi un impact sur la planète. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage, envisage d'inclure, ou peut-être dans un deuxième temps, ou pas forcément?
Alors, comment dire, bon, vous l'avez dit, hein, le gros de l'impact, à 80%, c'est le contenu. Hein, c'est ce qu'on met dedans parce que ça impacte l'agriculture, l'emploi des PME, notre santé, etc. Bon. Mais l'impact doit être considéré. Maintenant, je pense que quand on veut être un peu simple et efficace, il faut démarrer par les choses qui ont le plus d'impact et qui sont les plus compliquées à lire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, bon, l'emballage, globalement, pas trop besoin de vous expliquer quand même ce que c'est, quoi. On voit si c'est du verre, on voit si c'est du plastique, on voit si c'est du carton, on voit si c'est du vrac. Je pense que l'information, elle n'est pas aussi complexe que sur ce qu'il y a dans le produit, pour le coup, qui est souvent caché. Donc, je pense qu'il faut d'abord mettre de la lumière sur ce qui est caché. L'emballage, évidemment, c'est un sujet. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Français sont assez avertis. Les Français savent que le verre n'est pas la panacée, à moins de le consigner, à moins de parfaitement le recycler, et encore, que le plastique, c'est vraiment pas fantastique, comme disait l'autre, et que, ben voilà, il vaut mieux aller sur des sources d'emballage renouvelables ou alors vrac. Bon. Donc l'emballage, c'est un point, effectivement, mais qui sera pour nous, enfin qui pour nous apporterait un peu trop de complexité et chargerait un petit peu la liste des critères, alors qu'il me semble qu'il y a des enjeux prioritaires à mener pour bien nourrir les gens.
Oui, et puis il y a quand même moins cette confusion concernant la transparence. Voilà, le packaging parle de lui-même.
Exactement.
Donc il y a peut-être moins besoin d'éducation, et en tout cas, en l'occurrence, vous concentrez sur là où il y a un vrai besoin d'orientation du consommateur. Et donc ça se passe par effectivement le contenu de ce qui se trouve à l'intérieur, quoi.
Exactement. Quand vous achetez un ketchup d'un leader, d'une grande marque, vous voyez que c'est un squeeze en plastique. Bon, bah, globalement, c'est à peu près le seul truc qui ne peut pas vous cacher, quoi.
Oui.
Par contre, d'où vient le concentré de tomate, quels sont les additifs qui sont cachés dedans, quelle est la valeur nutritionnelle du produit, etc. Ça, par contre, on ne le sait pas.
Et alors, une fois qu'on a ce système commun entre toutes les marques qui donc indique l'origine, le type d'agriculture, la présence ou non d'additifs et la valeur nutritionnelle, quelle est votre vision à vous de la manière d'informer le consommateur? Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'applications qui existent, qui ne sont pas basées sur les mêmes données. Ouais. On a Yuka qui se base sur le Nutri-Score, Siga qui se base sur le degré de transformation et qui utilise les données d'Open Food Facts. Quel serait le système idéal pour communiquer?
Alors,
est-ce qu'on ne peut pas harmoniser tout ça, en fait, un peu?
Alors, il faut harmoniser tout ça, bien sûr, vous avez complètement raison, il faut harmoniser. Alors, il faut d'une part harmoniser, d'autre part rendre instantanément lisible. Pour moi, le consommateur, quand il fait ses courses, le consommateur, il va passer 30 secondes devant un produit à peine. Donc, en 30 secondes, il faut qu'il ait une clé de lecture claire pour pouvoir mettre une qualité en face d'un prix. Donc, ça ne doit pas passer par les applications. Je pense que Yuka a fait un boulot formidable, mais on ne peut pas systématiquement solliciter le consommateur pour qu'il devine ce qu'il mange. C'est-à-dire que le conso, ce n'est pas un détective privé. Vous imaginez, sinon, il faut avoir une application pour Yuka, une application pour Siga, une application pour le Francoscore pour l'origine, etc., etc. On ne s'en sort pas. Enfin, le consommateur, il a quand même autre chose à foutre. Lui, il paye, il a envie de savoir directement ce qu'il achète. Enfin, c'est fou, quoi. En plus, on paye pour ne pas savoir, quoi. Donc, selon moi, il faut que l'information soit visible on-pack et sur la partie recto du pack, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit sur le facing du produit et pas caché derrière. Donc ça, c'est la première chose, c'est que l'information soit immédiatement lisible sur le packaging. Ensuite, effectivement, qu'il faut consolider, il faut harmoniser et simplifier. Sur la nutrition, par exemple, il y a le Nutri-Score qui fait un boulot qui est remarquable. Il faut se dire que le professeur Herberg, il a quand même démarré ce truc en 2001 tout seul. chapeau d'avoir réussi à faire aboutir un petit indicateur aussi lisible, aussi clair, compréhensible par les consommateurs. Le problème du Nutri-Score, c'est qu'il a des limites. Il a des limites, comme vous le dites, parce qu'il n'intègre pas l'ultra-transformation, donc il y a un sujet. Donc il faudrait effectivement faire un Nutri-Score qui tienne compte peut-être du travail de SIGA. Le Nutri-Score, il n'a pas d'approche à la portion, bon, ce qui fait que c'est un peu ridicule parfois, parce que quand vous achetez de la mayonnaise ou de l'huile, bah nécessairement, si vous êtes sur une approche à 100 grammes, vous êtes hyper énergétique, mais personne ne consomme 100 grammes de mayonnaise ou 100 grammes d'huile. Donc, il faut avoir une approche à la portion, sinon ça n'a pas de sens.
Oui, et puis ça reste un produit qui reste quand même bon pour la santé.
Ah bah l'huile, c'est... Voilà, donc, exactement. C'est ça qui et derrière, effectivement, il faut aborder la problématique de la nutrition, mais du micronutriment, c'est-à-dire vitamines, minéraux, acides gras essentiels qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans les applications nutritionnelles. On ne se nourrit pas que d'énergie et de fibres, on se nourrit aussi de micronutriments. Donc effectivement, il y a une V2 du Nutri-Score qui lui rendra service, parce que le Nutri-Score, il est en train de se faire défoncer, alors que c'est une super initiative. Et il se fait défoncer parce que les industriels, pour certains, se sont engouffrés dans les failles. Et l'autre fois, moi, je l'ai mis sur LinkedIn, j'ai vu, je peux les citer, hein, McCain, qui a lancé des Street Fries Beef Barbecue. Bon, rien que le nom, déjà, vous vous dites Nutri-Score D.
J'ai peur, quoi. Ouais.
Bon, c'est Nutri-Score A. Voilà. Et pour ça, évidemment, il faut mettre de l'eau, des additifs, etc., etc. Pour avoir faible énergie, mais du goût, de la texture, etc. Donc, on invite les industriels avec cette faille à faire des produits vraiment nuls, mais qui vont être notés Nutri-Score A. Donc, c'est trompeur pour le consommateur. Donc, il faut que le Nutri-Score évolue. Et je suis d'accord avec vous, il faut harmoniser les critères d'information dans le Nutri-Score pour avoir quelque chose de plus solide et qui soit vraiment utile aux consommateurs et qui emmène les industriels à des meilleurs produits.
Et quel est le rôle des distributeurs? Parce qu'eux aussi décident de référencer ces produits et de les offrir à un consommateur et de dire, en fait, voilà, vous pouvez acheter ces produits-là qui ne sont pas forcément bons. Quel est le rôle qu'ils doivent avoir là-dedans?
C'est vrai. C'est un vrai bon sujet parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en est là parce que on ne raisonne que prix. Donc, le distributeur, il raisonne prix. Quand on entend les sorties d'un des plus gros distributeurs systématiques sur le prix, c'est destructeur de valeur. C'est-à-dire qu'à un moment, à vouloir demander du prix systématiquement, vous mettez la pression sur les industriels qui cherchent des solutions prix. Quand on cherche des solutions prix, on va prendre l'histoire du cornichon. Le cornichon, il y a 30 ans, qui était cultivé en France. À force de vouloir du prix, il est parti en Inde. Voilà, donc il y a un moment... Si le prix tue la qualité de vie... Ça n'a pas de sens. Si le prix tue les agriculteurs, ça n'a pas de sens. Donc, il faut un moment, évidemment, que les distributeurs ont un rôle fondamental. Ce sont des metteurs en marché. Donc, après, est-ce qu'ils souhaitent être des metteurs en marché responsables ou est-ce qu'ils souhaitent être uniquement des boîtes aux lettres, metteurs en marché de prix bas? C'est à eux de se positionner. Mais je pense aujourd'hui que tout le monde a conscience que les choses doivent bouger. Et je vois beaucoup de distributeurs, et notamment sur leur marque distributeur, faire des efforts incroyables en qualité. Franchement, parfois, il y a des produits de marque distributeur que je trouve supérieurs à des marques nationales. Donc, ils sont, je pense, lancés à leur rythme, parce qu'il faut que la transition se fasse sans trop d'impact financier. Mais oui, le rôle des distributeurs, il est crucial, il est fondamental. Moi, j'ai découvert ça, j'ai beaucoup aimé chez Biocoop l'exigence produit. Parce que, et chez Naturalia d'ailleurs également, parce qu'ils se considèrent comme des metteurs en marché responsables. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont un rôle à jouer sur la société. Et donc, nécessairement, les produits qu'ils mettent dans leur rayon, ils doivent répondre à un cahier des charges qui est un cahier des charges durable. Et je trouve que c'est vachement intéressant comme approche, parce que on construit l'avenir. Voilà, on construit l'avenir plutôt que l'hypothéquer. Et donc, moi, j'invite les distributeurs à être exigeants avec les industriels, mais pas exigeants que sur le prix. Exigeants également sur les pratiques, sur l'agriculture, etc., comme ils le sont très souvent sur leur marque distributeur, d'ailleurs. Et du coup, j'appelle aussi les marques distributeurs à rejoindre le collectif en vérité, puisque ce sont des marques, à le rejoindre pour réclamer aussi plus de transparence.
Et donc, les consommateurs peuvent aussi rejoindre le collectif en vérité. Comment ils font concrètement?
En fait, le collectif, il est l'alimentation, c'est le sujet de tout le monde. Clairement, c'est vrai que ça ne concerne pas que les marques, ça concerne les industriels, ça concerne l'agriculteur, ça concerne le professionnel de santé, le distributeur, etc., et le français. Donc tout le monde peut effectivement soutenir, participer au mouvement. En revanche, pour adhérer au collectif, on a fait le choix de limiter les adhésions aux marques pour essayer de garder un peu une lisibilité et de garder un message qui est assez clair et qui est porté par un type d'intervenant. Nous, les marques, c'est vrai que c'est nous qui racontons les belles histoires, c'est nous qui décidons un peu des produits qu'on va mettre en marché demain. Donc, je trouve que c'est assez chouette que de se dire c'est nous qui maintenant venons un petit peu nous mobiliser ensemble. Et pour que ce soit lisible, on a décidé que le collectif était un collectif ouvert en adhésion aux marques. En revanche, on a pas mal de soutien aujourd'hui déjà de professionnels de santé, d'ONG. Donc, on appelle tous les soutiens à parler du mouvement, à rejoindre le mouvement sous une forme de soutien. Donc, ce n'est pas sous une forme d'adhésion, mais c'est sous une forme de soutien.
Très bien. Quel est votre rapport à vous de la concurrence ? L'idée, c'est de se dire, est-ce que il y a plein de marques qui œuvrent pour une meilleure qualité des produits et donc cette concurrence finalement elle est saine parce que ça veut dire que l'objectif global c'est que l'ensemble de la population puisse s'alimenter sainement ou au contraire du coup il y a toujours la notion de se démarquer et puis de mettre en valeur les produits biofuturs.
Alors je crois que le soleil brille pour tout le monde donc faut l'accepter et moi je suis assez partisan de la concurrence. Enfin, j'aime bien la concurrence parce que déjà, elle me stimule. Hein. Je trouve des idées parfois. Je me dis, tiens, parfois, ils ont fait mieux que nous là-dessus. C'est un peu agaçant, mais bon, ça nous oblige à accélérer sur un truc qu'on n'avait pas nécessairement vu. Donc, c'est chouette. Donc, je suis assez fan de la concurrence. Je trouve ça plutôt stimulant, plutôt cool. Et puis, pour le conso, voilà, ça offre aussi des alternatives. Et puis, en plus, la concurrence, elle offre une diversité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, le modèle ultra centralisé avec quand vous avez 10 groupes mondiaux qui font 80% de l'offre alimentaire, ça appauvrit tout, ça fait moins d'emplois à la clé, ça fait moins de diversité, ça fait moins de biodiversité. Donc non, la concurrence, c'est chouette, la concurrence, il en faut, ça crée de l'emploi, ça crée de la stimulation, c'est super. Maintenant, voilà, le petit bémol que je mets, c'est que la concurrence, elle doit être loyale. C'est-à-dire qu'elle doit être loyale, et on en revient à la transparence, elle doit être loyale sur les règles du jeu. C'est-à-dire que un concurrent puissant qui va sortir un produit différent du vôtre, mais qui va, par de belles histoires marketing ou de la com, laisser penser au consommateur que c'est aussi bien, c'est pas très fair, quoi. Voilà, c'est pas très fair, ni pour le conso, ni pour nous. Donc la concurrence, ok, mais une concurrence avec les mêmes arbres et les mêmes exigences de transparence.
Ouais, très bien. Et quels sont vos projets à vous, donc soit à titre plus personnel ou un peu dans la même manière que vous avez initié le collectif en vérité, ou pour Biofutur, quels sont les projets ou quelle sera la prochaine crise de la soixantaine ?
J'espère qu'à 60 ans, je profiterai de mes petits-enfants. On en parlait en préambule, hein, le temps, c'est quand même un truc... C'est un truc précieux aujourd'hui, hein, d'arriver à avoir du temps pour les gens qu'on aime, c'est chouette. Donc je sais pas quelle sera ce sera peut-être la crise du repos, en fait. Du temps pour moi. Sinon, je vais vous laisser reformuler la question parce que du coup, je suis parti dans mes rêves à 60 ans, là.
Quels sont les projets pour Biofutur, ouais. Jusqu'où vous aimeriez l'emmener, votre vision. Et puis éventuellement, ça peut être aussi l'occasion de partager quelques projets plus personnels ou de la même manière que vous avez partagé le collectif En Vérité qui est né il y a quelques mois. Est-ce que du coup, il y a aussi d'autres ambitions cachées derrière tout ça?
Pour Biofutur, il y a plein de projets. Alors, chose qui n'est pas un truc qui va faire plaisir à mes actionnaires, mais je n'ai pas vocation à être une boîte qui est un major de l'alimentation. Moi, je suis très content de bien nourrir les gens. En France, on me parle souvent de l'international. C'est pas un truc qui m'excite. Moi, je me dis, on soutient une agriculture française et du coup, de manière cohérente, on va livrer des consommateurs français. Donc je suis très bien en France. Il y a encore plein de trucs à faire. Donc, j'ai pas une ambition démesurée. En revanche, j'ai une exigence démesurée qui fait que oui, pour Biofutur, je nous souhaite avec Quintessence ou avec Node en fonction des catégories, mais je nous souhaite d'accélérer et de continuer à revisiter. Aujourd'hui, quand je fais mes courses, je me rends compte qu'il y a encore, peut-être que parce que je suis exigeant, mais il y a encore plein de catégories de produits où je suis pas du tout satisfait, soit parce que je sais pas comment c'est fait, soit parce que je trouve que c'est pas terrible ou pas parfait, mais je suis pas satisfait de ce que je donne à mes enfants ou de ce que je prends pour moi. Donc je pense qu'on peut encore faire mieux. Je pense qu'il y a encore tout un tas de segments alimentaires sur lesquels on peut intervenir pour apporter une valeur ajoutée. Donc je nous souhaite de belles innovations. Je nous souhaite aussi de rendre encore plus accessibles nos produits aux consommateurs. Donc, il y a plein de circuits de distribution où on peut encore travailler pour rendre les produits toujours plus accessibles aux gens. Pendant longtemps, moi, j'ai entendu « Ah, tes produits sont top, mais c'est compliqué de les trouver ». Donc, nécessairement, c'est quelque chose qu'on doit améliorer. On doit améliorer notre accessibilité pour les consommateurs. Donc, je souhaite cette croissance saine, mais maîtrisée pour Biofutur. Et puis, avec à la clé, moi, j'ai un petit rêve qui est partagé avec les collaborateurs. au niveau de la boîte, qui est que par notre travail, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse s'offrir la maison Biofuture. C'est-à-dire que je rêve de faire construire des bureaux complètement neutres en carbone, complètement éco-responsables, donc des bureaux passifs, sous la forme d'une maison dans laquelle les collaborateurs viendraient travailler comme s'ils allaient travailler à la maison avec un petit potager en permaculture pour qu'ils puissent avoir des produits pour cuisiner le midi et qu'ils soient vraiment un lieu de vie dans lequel on pourrait recevoir à la fois des entrepreneurs, d'autres sociétés qui viendraient, à qui on pourrait prêter des bureaux, mais également dans lequel les collaborateurs auraient le sentiment de venir bosser de chez eux. Voilà, un télétravail au bureau, entre guillemets. Donc, ça fait partie des petits rêves concrets qu'on a de manière, en termes de qualité de vie au travail.
Ouais, un écolieu, ouais.
Un écolieu, exactement.
Qui a tout son sens. En ce moment, je crois que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité.
Ouais, et puis il y a une personne que j'aime beaucoup et je suis très admiratif de son travail, c'est Laetitia de l'Amazona.
Je voulais la mentionner parce que du coup, il travaille aussi dans un écolieu. Voilà, exactement. J'ai enregistré avec eux il y a 2-3 jours. Et effectivement, ouais, c'est assez inspirant ce qu'ils ont pu mettre en place.
Génial.
Tout a été en plus éco-conçu, recyclé, tout est issu de matières reconditionnées ou autres, histoire de vraiment maîtriser au maximum l'impact. Et ouais, je crois que c'est
top. C'est pas la voie de la facilité, hein. Franchement, elle s'en est vue. Mais chapeau, quoi. C'est un parcours admirable. C'est une vraie impact player. Je sais pas si on dit en féminin comme on dit, mais c'est top. Enfin, moi, je trouve que l'idée est extrêmement inspirante.
Et vous, quels sont vos gestes green du quotidien? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui pourrait inspirer les auditeurs?
Alors moi déjà j'ai tout plaqué pour essayer de monter une boîte qui faisait de l'alimentation durable, donc ça déjà au quotidien j'essaye de me battre pour ça au niveau de ma boîte. Non, après il y a plein de petits trucs. C'est-à-dire, moi déjà j'ai une alimentation, pas vous mentir, hein, j'ai une alimentation, vous ouvrez mes placards, c'est 100% bio et issu de PME française, parce que et j'ai fait à côté de ça, j'ai fait des sacrifices. C'est-à-dire que voilà, les vacances sont plus les mêmes, on n'est pas dans une grande maison, etc. Mais bon, c'est pas grave. Mais en revanche, on mange bien, et quand on mange, on se dit on fait du bien aux gens et on soutient de l'emploi, etc. Donc ça, c'est vraiment un geste d'impact auquel je tiens. Après, je suis vigilant dans mes déplacements. Moi, je prends jamais l'avion, j'essaie de faire un maximum en train. Je pars pas en voyage à l'étranger, quasiment pas. J'ai découvert le vélo à Lyon là, et je trouve ça super. Donc j'essaie de m'y mettre davantage. Je regrette qu'on n'en ait pas à Aix-en-Provence d'ailleurs. Donc je suis vigilant sur mes déplacements et puis surtout un petit truc tout con, mais je crois que les gens s'en rendent pas compte. C'est le fait de parler et de transmettre. Moi au quotidien, et c'est pour ça que je suis vraiment merci pour le podcast, parce que au quotidien, je pense que on se rend pas compte que quand on parle à quelqu'un, quand on donne une idée à quelqu'un, qu'on lui donne une information, on le nourrit sans s'appauvrir. Donc c'est vraiment le seul cas où on peut donner sans perdre. Donc on donne une information, on nourrit quelqu'un d'une information, et puis cette personne va la donner à quelqu'un d'autre, qui va la donner à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est pareil avec nos enfants sur l'éducation. Quand on leur donne une information, on les nourrit. Et donc un de mes gestes au quotidien, c'est toujours d'essayer de partager mes convictions, de partager les domaines de compétences que je connais un petit peu, pour permettre aux gens de faire du plus dans leur vie, et puis surtout d'en parler à une autre personne, qu'on parlera à une autre personne, etc. etc., etc.
Super.
Voilà mon petit geste.
Génial. Merci pour la réponse à toutes ces questions. Je crois qu'il est temps qu'on passe au quiz. L'idée du quiz, c'est donc de donner une série de questions avec à chaque fois un choix A ou un choix B. Et l'idée, c'est que vous répondiez le plus spontanément possible par la réponse A ou par la réponse B, sachant qu'il n'y a aucun jugement dans les réponses. Hein, donc, on peut répondre librement. Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais, je suis prêt.
Allez. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour se rendre au boulot, vous êtes plutôt vélo ou voiture?
Voiture, parce que je suis à Aix-en-Provence. Voiture.
Ok. Rien dans le frigo, un McDo, un Too Good To Go?
Un Too Good To Go.
Le lundi, vous êtes plutôt steak frites ou veggie Monday?
Steak frites.
Un steak peut-être bio et local?
Tout à fait. Systématique, même les frites.
Pour offrir des cadeaux, vous êtes plutôt Emmaüs ou Amazon?
Compliqué. Hein. Malheureusement, encore un peu trop Amazon, ouais.
Et enfin, avant de vous endormir le soir, plutôt Netflix ou un bon bouquin?
Plutôt Netflix. En fait, comme j'ai que des bouquins quasiment de développement personnel, le soir, j'ai plus de jus de cervelle disponible.
Plus dur, quoi. Oh, ouais.
Je suis cuit. Donc, c'est vrai que à chaque fois, je me dis, j'essaye, je lis 10 pages et je dors. Donc, je laisse mon cerveau au repos.
Les efforts sont vains, effectivement.
Ouais, c'est un peu ça.
Bon, bah, super. Merci beaucoup pour, déjà pour vous être prêté au jeu du quiz, pour nous avoir parlé de Biofutur et puis de nous avoir aussi, pour votre engagement, d'avoir partagé votre engagement pour offrir une meilleure transparence et permettre à chacun la possibilité de bien s'alimenter. Bravo pour tout ça. Et puis, au plaisir de suivre les aventures de Biofutur et de retrouver toutes les marques dans les rayons du supermarché.
Merci beaucoup, Pauline, en tout cas, pour ce temps de parole. C'était vachement sympa.
Bon, bah super. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt.
À bientôt. Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter. Je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaireto20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.